Radio Prague, les informations.
Le principal axe routier tchèque bloqué par des accidents. Le gouvernement n'a rien contre un contrôle russe sur la base radar américaine. La sécurité et les caricatures du prophète à Brenon. Avec le retour de l'hiver, des giboulées, des tempêtes de neige, la circulation est devenue difficile dans certaines régions tchèques. Ainsi donc, dans la matinée de jeudi, l'autoroute D1, le principal axe routier qui conduit de Prague à Brno et vers la Slovaquie et la Pologne, a été complètement bloquée par une série d'accidents de la route dans une tempête de neige. Sur 40 km, 116 véhicules ont été victimes de ce carambolage en série. Bilan 30 blessés, dont 6 graves. Selon les estimations des pompiers, plus de 20 000 personnes ont été bloquées sur la D1, qui est la plus ancienne autoroute tchèque et dont la capacité ne suffit plus à contenir le trafic intense avec plus de 100 000 véhicules par jour. Lors d'un forum de discussion à Prague, le vice-premier ministre Alexander Vondra a déclaré qu'il ne serait pas contre le contrôle de 2 officiers russes accrédités sur la base radar américaine qui seraient éventuellement installés en Tchéquie. Cela devrait avoir lieu sur la base de la réciprocité et selon des conditions bien définies. Le Premier ministre Mirek Topolánek a déjà lui aussi déclaré qu'un tel contrôle pourrait être possible. Les services de renseignement tchèques BIS ne pensent pas que la pose d'affiches représentant des caricatures du prophète Mohammed à Brno puisse provoquer des actes de violence de la part des musulmans vivant en Tchéquie. D'après le porte-parole des services secrets, Jan Schubert, le danger existe de l'étranger et les services sont en état de haute surveillance en raison des menaces proférées par Oussama Ben Laden ce mercredi. La salle Vladislas du château de Prague abritera du 19 au 29 avril l'exposition des bijoux de la couronne de Bohême, donc la couronne, le sceptre, la pomme, la croix et d'autres insignes du pouvoir. Les bijoux ne sont exposés qu'en de rares occasions. Cette année, ce sera en l'honneur de la seconde élection de Václav Klaus à la fonction présidentielle et aussi à l'occasion du 90e anniversaire de la naissance de la République tchécoslovaque. Les lignes aériennes tchèques Czesa voleront entre Prague et Marseille à partir de l'entrée en vigueur des horaires d'été, le 30 mars. Parmi les autres changements, de nouveaux vols aussi en direction des républiques dans l'ancienne Union soviétique. Marseille n'est pas une toute nouvelle destination, car les Czesa desservaient cette ville en passant par Barcelone. Pour la première fois dans l'histoire, la capitale de la République tchèque, Prague, a dépassé le nombre de 1 200 000 habitants. L'année dernière, en effet, près de 55 000 personnes y sont arrivées. Et c'est la capitale tchèque aussi qui détient le nombre record des naissances depuis 1989. Le principal responsable de la hausse du nombre de Pragois est la migration, car la capitale offre les meilleurs salaires et le chômage est le plus bas dans tout le pays. La météo ne nous annonce pas de changement pour les jours à venir. L'hiver est vraiment de retour avec d'abondantes chutes de neige, des vents violents, des gelées, même dans la journée. Les automobilistes doivent faire attention au verglas et aux brouillards locaux, surtout le matin et dans la soirée. Les températures ne dépasseront pas les 5 degrés dans la journée. Bonne fête au Radek le 21 mars, d'après le calendrier tchèque. C'était Alain Stivinski. Les informations sur Radio Prague.
Faits et événements en République tchèque. Jarka Gisubelova.
Bonjour, voici le titre de cette édition. La République tchèque a adopté comme dernier État de l'Union européenne la loi antidiscrimination. Le 5e anniversaire de l'invasion des États-Unis en Irak, vu de Prague. Après les frontières terrestres, les frontières aériennes tomberont le 30 mars prochain dans les aéroports tchèques dans le cadre de l'élargissement de l'espace Schengen. Argipo, un opéra inédit de Vivaldi, que l'on croyait perdu à jamais, a été retrouvé et reconstitué par le chef d'orchestre tchèque Andrej Macek. Nous vous en dirons plus dans un instant. Bonne écoute à toutes et à tous. La Chambre des députés a adopté mercredi la loi anti-discrimination par 111 députés sur 170 présents, une loi qui aurait dû être adoptée il y a longtemps au moment de l'entrée du pays dans l'Union européenne en 2004. La République tchèque, à la traîne des 27, pouvait donc craindre des sanctions de la part de Bruxelles. Tour d'horizon d'une loi retardataire qui doit encore être adoptée par le Sénat et signée par le président de la République avec Anna Kubishta.
Selon cette loi, et si elle passe les deux derniers caps mentionnés, toute personne s'estimant victime de discrimination pourrait à l'avenir porter plainte et demander des dommages et intérêts. Pour Jamila Sterlikova, ministre chargée des droits de l'homme et des minorités, la discrimination au travail pour certaines tranches d'âge est un des problèmes récurrents de la société.
Il y a souvent des discriminations sur le marché du travail notamment, et surtout lorsqu'il s'agit de femmes avec des enfants en bas âge ou il s'agit de personnes âgées de plus de 60 ans. La loi permettra de faire en sorte que les employeurs évitent ce type de discrimination par avance. Je veux croire qu'il n'y aura aucune sanction, qu'il n'y aura qu'un changement positif dans le comportement et qu'on va enfin commencer à ne plus juger selon l'âge, le sexe, le handicap, l'origine, l'orientation sexuelle.
D'après la ministre, la loi est bonne et nécessaire en dépit des critiques qui se sont fait entendre issues des rangs de la majeure partie du spectre politique. Certains députés de droite estiment en effet que la loi est inutile, voire mauvaise, d'autant plus qu'elle est imposée par Bruxelles. Cela n'a pourtant pas empêché une majorité de députés ODS de l'adopter mercredi, tandis que dans l'opposition, on a plutôt fait la sourde oreille. Si la gauche reconnaît que la loi est une nécessité, elle juge sa forme actuelle largement insuffisante. En outre, la majorité des communistes a voté contre. On écoute la députée communiste Zuzka Bebarová-Rujbrová.
Je regrette de devoir constater que la Commission européenne a obtenu gain de cause. Mais par contre, les droits de l'homme n'ont pas fait de progrès grâce à cette loi. La proposition que j'ai faite, c'était de supprimer les lois dites de lustration. Si tant est que l'on parle d'une loi censée favoriser l'égalité, ils n'ont pas leur place dans la législation tchèque. Malheureusement, la proposition n'est pas passée.
Bohužel, ani tento pozměňovací návrh přijat nebyl. Rappelons que la loi dite de lustration interdit aux anciens fonctionnaires du Parti communiste et aux agents et collaborateurs de l'ancienne police politique d'occuper des postes importants dans l'administration d'État.
L'invasion, 5 ans après, quel est le bilan de la guerre? Quelle issue au conflit? Voilà quelques titres par lesquels les journaux tchèques marquent le 5e anniversaire du début de l'invasion américaine en Irak. Le quotidien Lidové noviny cite le président George Bush qui a déclaré que malgré le prix élevé payé, la décision de chasser Saddam Hussein du pouvoir était bonne et qu'il s'agit d'un combat que l'Amérique peut et doit gagner. Et le journal ajoutait qu'au même moment où George Bush prononçait ces paroles, des centaines de personnes ont manifesté au centre de Washington leur non à la guerre. Guerre qui en 5 ans a tué des milliers de civils, selon le gouvernement irakien jusqu'à 150 000, qui a tué près de 4 000 soldats américains et a coûté 750 milliards de dollars si l'on ne compte que les frais directs. Quel est le regard porté sur l'invasion par le politologue Petr Robejšek?
Mon avis est qu'il faut regarder l'invasion dans une perspective historique, dans le contexte des objectifs suivis. Au premier plan, et dans une certaine mesure, il s'agissait certainement des gisements du pétrole, il s'agissait de lutter contre le terrorisme soutenu par Saddam, mais avant toute chose, il s'agissait de donner une impulsion à la civilisation islamique pour qu'elle se modernise, car si elle ne se modernise pas assez rapidement, le défi en matière de sécurité restera immense, non seulement pour les États-Unis, mais pour l'Occident tout entier. La démarche de George Bush a certes été impopulaire, douloureuse, elle a fait trop de victimes, mais finalement, je ne vois pas d'autres alternatives. C'est un processus qui a des dimensions historiques, 5 ans est trop court, mais les premiers signes de stabilisation sont déjà patents.
Interrogé par la télévision publique tchèque sur ce que les États-Unis ont gagné par leur guerre en Irak, le politologue Mikhail Romantsov a déclaré.
Je dirais que les États-Unis ont plutôt perdu. Ils ont perdu la réputation d'une puissance d'attrait global. La guerre a altéré le crédit de l'administration américaine et une avalanche de critiques s'est abattue sur elle à cause de cette guerre.
À la radio tchèque, son envoyé à Washington, Roman Bradač, a parlé de l'évolution des sympathies des Américains pour cette guerre.
D'après les sondages, 2 Américains sur 3 sont pour le retrait immédiat des unités américaines de l'Irak. 2/3 estiment que la poursuite de la présence américaine en Irak est inutile et n'en vaut plus la peine.
Selon le quotidien Mladá Fronta Dnes, qui se réfère aux résultats d'un sondage de la BBC, 62% des Irakiens se sentent plus en sécurité 5 ans après, avec la diminution des violences grâce à l'envoi de soldats supplémentaires, soit 20% de plus par rapport à l'année 2007. C'est dans la nuit du 29 au 30 mars que la République tchèque fera entièrement partie de l'espace Schengen, où les frontières entre États n'existent plus. Les frontières terrestres sont tombées au mois de décembre 2007. À fin mars, ce sont les frontières aériennes qui seront abolies. Qu'est-ce que cela signifie pour les aéroports tchèques et les voyageurs? Réponse avec Alain Slivinski.
La République tchèque occupe une position spécifique dans le cadre de l'Union européenne. Elle n'est entourée que de pays qui sont membres de l'Union et de l'espace Schengen, sauf en ce qui concerne les aéroports internationaux. Ces derniers sont les seuls points de contact avec le monde hors Schengen. Sur 20 aéroports internationaux, seulement 14 pourront recevoir les ressortissants de pays qui ne font pas partie de la Convention de Schengen. Pour cela, ils ont reçu un certificat approprié. Les 6 autres devront se contenter des citoyens de Schengen. 5 des aéroports qui disposeront du certificat mentionné sont ceux qui reçoivent le plus de vols de pays en dehors de Schengen, dont celui de Prague-Ruzigne par exemple, et seront en fait divisés en terminaux Schengen et terminaux hors Schengen. Dans les 9 autres aéroports qui desserviront les vols internationaux, il sera fait en sorte que les vols des pays de l'espace Schengen ne se croisent pas avec ceux des pays qui n'en font pas partie, même au prix de modifications dans les horaires. Pour cette dernière raison d'ailleurs, les aéroports internationaux tchèques ont intégré l'espace Schengen plus tard que les passages terrestres. Le vice-directeur de la police d'immigration, Vladislav Husák, explique ce qui changera.
Dans la partie Schengen, ce sera comme quand vous allez de Prague à Munich en voiture, donc sans aucun contrôle de documents d'identification. Ce sera donc comme cela à l'aéroport de Prague-Ruzigné, par exemple. Vous ne serez pas contrôlé par la police de la République tchèque. Ce qui ne changera pas, ce sera le contrôle de la sécurité. Mais cela n'est pas du ressort de la police tchèque, mais de l'administration de l'aéroport ou d'autres institutions.
Ajoutons que l'aéroport de Prague-Ruzigné sera divisé en 2 parties, le terminal 1 pour les vols internationaux en dehors de Schengen, le terminal 2 pour les vols Schengen. Rappelons que l'espace Schengen compte 24 pays dans lesquels on peut voyager sans contrôle et qu'il s'étend sur plus de 4000 km du Portugal à l'Estonie.
Comme je vous l'ai dit en titre, le claveciniste et chef d'orchestre tchèque Andrzej Macek a retrouvé la partition d'un opéra d'Antonio Vivaldi que l'on croyait perdu à jamais. Intitulé Argipo, cet opéra en 3 actes sera rejoué dans la capitale tchèque le 3 mai prochain, près de 300 ans après sa première paroisse. Plus de détails sur cette découverte exceptionnelle avec Alexis Rosenzweig.
Automne 1730, les biographes d'Antonio Vivaldi s'accordent sur la date de la première de cet opéra dans le théâtre du comte Spork. Le comte Spork, un mécène à qui Prague doit son premier opéra, un mécène pour lequel le compositeur vénitien a composé plusieurs œuvres, dont celle-ci, Argipo. De cette œuvre, on ne connaissait que le livret, un livret rédigé par Domenico Lalli et conservé jusqu'ici à la Bibliothèque nationale de Prague. Jusqu'à récemment encore, la partition était considérée comme perdue, jusqu'à ce que Andrzej Macek découvre un manuscrit dans les archives privées de la famille Tourntaxis à Ratisbonne. On l'écoute.
Lorsque j'ai commencé à feuilleter ce manuscrit et que j'ai lu les premières mesures, ça a été l'euphorie, parce qu'on sent Vivaldi dans chaque note.
Une découverte exceptionnelle, très vite authentifiée par la commission scientifique du prestigieux Institut Antonio Vivaldi de Venise et présentée en juin dernier lors d'une conférence internationale intitulée Antonio Vivaldi, passé et futur. Argipo, reconstitué entièrement à partir du manuscrit, est un opéra d'une durée d'environ 2 heures, une histoire d'amour, d'honneur, de passion et de vengeance, l'histoire de 2 princes qui se disputent une même princesse.
C'est un opéra typique de Vivaldi, un opéra qui a été composé dans la période la plus faste de l'ensemble de son œuvre. C'est ce qu'estime Andrzej Maciek. C'est ce même Andrzej Maciek qui dirigera le 3 mai prochain la première contemporaine de cet opéra retrouvé. À événement exceptionnel, lieu exceptionnel, ce sera dans la salle espagnole du château de Prague avec l'ensemble international Hofmusici, qui devrait ensuite se produire au théâtre baroque de Český Krumlov, puis à Venise.
C'était les faits et événements, l'émission sur Radio Prague continue avec la rubrique diffusée une fois tous les 15 jours.
Les Tchèques célèbres et moins célèbres. Jarka Gregorova.
Bedřich Hrozný, né le 6 mai 1879 à Lesin nad Labem en Bohême centrale, était un linguiste et un orientaliste remarquable qui a contribué de façon importante à déchiffrer les caractères cunéiformes hittites. Il a découvert la richesse culturelle de ce peuple indo-européen dont le puissant empire se trouvait en Anatolie centrale, actuelle Turquie. La puissance et l'expansion territoriale des Hittites, qui culmina au XIIIe et XIVe siècle avant Jésus-Christ, fut équilibrée avec celle de l'Égypte par la bataille de Kadesh. Cette dernière est considérée comme la première bataille dont on connaisse le déroulement de manière relativement précise. Bedřich Hrozný était un chercheur talentueux. Il a rédigé plus de 300 ouvrages scientifiques, dont le premier a été publié alors qu'il n'avait que 23 ans. Il s'était concentré surtout sur l'Asie mineure, la Mésopotamie, dont la religion influença celle des Hittites, la Crète antique, l'Ancienne Égypte et l'Inde. Il rédigeait ses ouvrages également en français, allemand et en anglais. Ses recherches sont d'un grand apport pour l'histoire de l'orientalisme du XXe siècle. Bedri Hrozny a appris la base de l'hébreu et de l'arabe au cours de ses études secondaires. Après son baccalauréat, il opte pour des études à la faculté de théologie à l'université de Vienne. Peut-être parce que son père est pasteur, peut-être aussi parce qu'il estime que c'est une voie pleine d'avenir. Mais très vite, il se rend compte que ce n'est pas vraiment ce qui lui convient. Il passe à la faculté des lettres, où il peut se concentrer à l'étude du grec et du latin et des langues orientales, en particulier de l'assyrien, de l'éthiopien, du sanskrit, du sumérien, de l'araméen et de l'écriture cunéiforme. Au début du XXe siècle, il obtient une bourse à l'université de Berlin, où il trouve également un poste au sein de la bibliothèque universitaire. En 1904, il est convoqué à participer aux fouilles à Tanek. Ce sera en Turquie, Syrie, Palestine et en Égypte qu'il contribuera à la traduction des textes de l'écriture cunéiforme. Ce voyage est une grande expérience à vivre, car à l'époque, ces pays lointains sont encore un mystère. Il retourne à Vienne et travaille à la bibliothèque universitaire de la capitale impériale. Plus ou moins à cette même période, des tablettes en argile couvertes d'une écriture inconnue sont découvertes à quelques centaines de kilomètres d'Ankara. Et ce fut justement Bedri Hrozny qui réussit à élucider le mystère de l'écriture qui devint le cauchemar d'un grand nombre de scientifiques. Il s'agissait bel et bien de l'écriture cunéiforme hittite, langue faisant d'ailleurs partie des langues indo-européennes. Après la Grande Guerre, Bedri Hrozny est appelé pour travailler à la faculté des lettres de l'université Charles à Prague, dont il est pendant 2 ans le président, et où il est nommé professeur d'écriture cunéiforme et de l'histoire de l'Ancien Orient. En même temps, il se consacre à la fondation de l'Institut oriental, dont il devient également le président. Dans les années 30, ce scientifique tchèque réalise un voyage de plusieurs mois pour la Syrie et la Turquie. En 1939, la possibilité de quitter la Tchécoslovaquie se présente. Mais Bedri Hrozny, grand patriote, refuse de fuir les occupants fascistes. Après la fermeture des universités par les nazis, il donne des conférences. Pendant la guerre, il se consacre à la rédaction de l'histoire de l'Asie antérieure et au déchiffrage des inscriptions crétoises. Par contre, il n'a pas réussi à déchiffrer les plus anciens écrits de l'Inde, de la Crète et l'écriture hiéroglyphique hittite. La guerre de 1939-1945 se termine, mais Bedri Hrozny est en très mauvaise santé et ne peut plus continuer à développer ses activités au sein de l'université Charles. Il donne tout de même des conférences dans le cadre de congrès scientifiques internationaux. En 1952, il est l'un des premiers membres de l'Académie tchécoslovaque des sciences, fondée en cette même année. Un accident grave l'oblige à être interné dans une maison de santé, où il passe les derniers jours de sa vie jusqu'à son décès, le 12 décembre 1952. Le musée de Bedri Hrozny, qui fait partie des orientalistes les plus renommés sur le plan mondial, a été fondée en 1951 dans sa ville natale, Lysana nad Labem, où se trouve également la dépouille mortelle du scientifique tchèque.
Fin de cette émission, merci de votre attention. Vous retrouverez tous nos sujets sur www.radio.cz. À bientôt donc sur nos ondes.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 hours UTC on 11640 kHz. In Central Europe, you can tune in at 1330 hours UTC at 9750 kHz, or every Friday and Saturday on DRM. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 1000 hours UTC on 21745 kHz, and at 1700 hours on 15710 kHz, and at 2230 hours on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 15710 kHz or at 2230 hours on 9435 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1130 hours UTC on 17545 kHz and at 0430 hours on 9890 kHz. In the Middle East, listen at 1130 hours UTC on 17545 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours UTC on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 15710 kHz, at 1400 hours on 11600 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz. In Southwest Asia, listen at 0430 hours UTC on 9890 kHz. In East Asia, listen at 2100 hours UTC on 9430 kHz. Listeners in Australia can listen at 1800 hours UTC on 9400 kHz and at 2100 hours on 9430 kHz.